Nous avons jusqu'ici essayé de déterminer le statut des religions païennes dans une perspective chrétienne. Nous avons constaté qu'elles avaient à la fois des aspects positifs et une incertitude radicale. Ce sont ces deux aspects que nous devons approfondir. D'abord, ce que les religions païennes nous font connaître du vrai Dieu, et ensuite, quelles sont les ambiguïtés foncières qui restent les leurs dans les affirmations qu'elles portent sur lui. Nous nous appuierons beaucoup ici sur les remarquables travaux de la phénoménologie des religions, en particulier sur ceux d'Eliade et de van der Leuve, qui ont dégagé de l'immense matériel accumulé, depuis deux siècles en particulier, les structures communes qui permettent de décrire les formes fondamentales de la religion. Le premier trait de la religion cosmique est que Dieu y est connu, comme le disait Paul aux Romains, à travers les choses visibles. Le cosmos tout entier prend une dimension symbolique. Les réalités qui le constituent, les étoiles et la régularité de leur cours, le soleil et son éclat, l'orage et la terreur qui l'inspirent, le rocher et son immuabilité, la rosée et sa bénédiction, sont autant de hiérophanies, de manifestations visibles à travers chacune desquelles un aspect de Dieu se manifeste. Cette révélation est fondée d'ailleurs métaphysiquement sur l'analogie générale de l'être, selon laquelle tout être étant une participation de Dieu porte de lui quelques vestiges. Le monde est aussi un livre qui nous parle de Dieu, et ce livre est le seul dont disposait l'humanité païenne. Cette connaissance symbolique apparut souvent arbitraire et fantastique au rationalisme moderne formé à la rigueur du raisonnement déductif. Mais la phénoménologie des religions en a restitué la valeur gnoséologique. D'une part, on a remarqué que les mêmes symboles, feu, ténèbres, rosée, désignaient toujours des réalités analogues. Il s'agit donc bien d'une relation objective entre le symbole et son objet, et non d'une interprétation gratuite. Le symbole est le moyen d'une connaissance parfaitement objective. Par ailleurs, la psychologie des profondeurs de Jung a montré comment cette valeur objective des symboles était liée à la structure même de l'esprit, parce qu'ils expriment des contenus intellectuels et émotionnels permanents. Nous pouvons relever quelques-unes de ces hiérophanies à la suite de Mircea Eliade. Le ciel tient une place importante dans de nombreuses religions, en Océanie, en Chine, aux Indes, en Iran, en Grèce. Il apparaît comme une manifestation du Dieu suprême. Il exprime pour l'homme primitif la transcendance, le monde inaccessible où il ne peut atteindre. Il présente par ailleurs un contraste avec la variabilité des choses terrestres, et en particulier de l'atmosphère, un mouvement immuable qui est en fait un symbole d'éternité. Il est enfin la source mystérieuse de la lumière et de la pluie, la symbole de la puissance et de la fécondité de Dieu créateur. Parmi les objets célestes, le soleil tient une place éminente. On sait l'importance de son culte, aussi bien chez les Incas que dans le mithriacisme. Il a constitué la dernière forme du paganisme romain. Le soleil apparaît comme la force qui dissipe les ténèbres. Il symbolise en ce sens la divinité comme source de connaissance, mais il est aussi le principe vivifiant de tout le cosmos et manifeste également Dieu comme source de vie. La hiérophanie lunaire est aussi en relation avec les forces de la fécondité, mais elle l'est davantage encore avec les forces chtoniennes, avec le monde végétal. On a remarqué son association fréquente avec les eaux et avec le serpent. Sa présence tutélaire exprime un aspect différent de celui du soleil, de la protection divine. Dans toutes les religions, l'orage est un thème éminemment lumineux. Même l'homme d'aujourd'hui ressent souvent à son occasion un frisson sacré qui n'est pas la simple crainte du danger qu'il représente, et la vieille paysanne se signe à son approche. C'est qu'en effet ces divers éléments, le nuage sombre, l'éclair, le fracas du tonnerre, par la terreur qu'il suscite, apparaissent comme des hiérophanies de la colère divine, c'est-à-dire de l'intense vitalité de Dieu, de la densité insupportable de son existence, dont l'homme ne peut supporter l'approche. Le prophète Habakkuk décrira la manifestation de Yahvé en reprenant ce symbolisme de l'orage. À ta vue, les montagnes sont dans les transes, une trombe d'eau a passé. L'abîme donne de la voix, il tend les mains en haut. Le soleil et la lune sont restés dans leur demeure, on marche à la clarté de tes flèches, à la lumière des éclairs de ta lance. Habakkuk 3. Ce cas n'est pas unique de symboles cosmiques repris par la révélation biblique. C'est en effet un principe de la succession des révélations qu'une révélation nouvelle ne détruit pas, mais assume les valeurs de celle qui l'a précédée. Le Christ n'a pas détruit la loi, mais l'a au contraire accomplie. Ainsi, la loi d'abord n'avait pas aboli, mais accompli la religion cosmique. Les fêtes juives de Pâques, de la Pentecôte et des Tabernacles se sont substituées aux antiques fêtes saisonnières, et les disciples d'Élie ont remplacé sur le Carmel les prêtresses d'Astarté. Et le christianisme lui-même n'a pas craint de célébrer au jour du solstice d'hiver où se célébrait le natal Solis Invicti, la naissance du Christ, montrant ainsi que celui-ci était le soleil éternellement levant de la nouvelle création, où, selon le mot de l'Apocalypse, il n'y a plus besoin de soleil, car Dieu lui-même en est la lumière. Ceci apparaît bien à propos de deux hiérophanies dont nous n'avons pas encore parlé. La première est celle du rocher. Mircea Eliade a remarquablement analysé la valeur hiérophanique de celui-ci. Rien de plus immédiat et de plus autonome dans la plénitude de sa force, rien de plus noble et de plus terrifiant non plus que le majestueux rocher. Il révèle quelque chose qui transcende la précarité de la condition humaine, un mode d'être absolu. Sa résistance, son inertie, ses proportions, de même que ses étranges contours ne sont pas humains, ils attestent une présence qui éblouit, terrifie, attire et menace. Or, il est remarquable que le rocher, qui tient une place considérable dans les religions païennes, est un des symboles préférés de la Bible pour signifier Dieu. Le cantique du Deutéronome le désigne par ce titre « Le rocher, son œuvre est parfaite, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. » Mais en reprenant le symbole, le texte le charge d'un sens nouveau, il désigne la vérité de Dieu, « Emet ». Celle-ci ne consiste pas, pour la Bible, dans le fait que Dieu illumine l'intelligence, mais dans le fait qu'on peut s'appuyer sur lui de tout son poids. Et ceci est capital pour la conception biblique de la vérité, qui s'appuie non sur l'évidence de l'objet connu, comme pour le grec, pour qui son symbole est la lumière, mais sur la solidité du témoin qui fait connaître. Et voici qu'à son tour, le Nouveau Testament reprend la métaphore pour l'appliquer au Christ. « Car le rocher était le Christ », dira saint Paul. Mais elle prendra à nouveau un sens différent qui continue et dépasse les précédents. Elle désignera la personne même du Christ en tant qu'il est le rocher sur lequel repose la création nouvelle de l'Église, la pierre de fondement inébranlable sur laquelle s'appuie tout l'édifice de celle-ci. Sur ce rocher de base sont posées les fondations des apôtres et des prophètes, et au-dessus s'élève l'édifice spirituel constitué d'âmes vivantes où la Trinité demeure. C'est en lui que vous êtes édifiés conjointement pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2. Un autre symbole dont le destin est parallèle est celui de la pluie. Elle est dans les religions païennes l'expression de la bénédiction de Dieu sur la terre altérée, grâce toujours espérée et toujours merveilleuse qui donne la vie et la joie à la terre. Elle est associée à la lune nocturne qui rafraîchit des ardeurs solaires. Or, la Bible reprendra ce symbole pour en faire l'expression des bénédictions spirituelles « et nubes pluant justum ». Elle comparera en particulier son efficacité vivifiante à celle de la parole de Dieu. « Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé et fécondé la terre, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Et le pseudo-déni, énumérant les noms divins, pourra écrire « Il est soleil, étoile, feu, eau, souffle, rosée, nuée, roc absolu, pierre, en un mot, tout ce qui est, et rien de ce qui est. » De même que la religion cosmique connaît Dieu à travers sa manifestation dans le monde, de même elle envisage son action au niveau des réalités de la nature. Il est essentiellement pour elle le seigneur du cosmos, celui qui en assume la conservation. Pour elle, l'homme fait partie du monde de la nature. Ce qu'il attend de Dieu, l'objet de sa religion, est la prospérité terrestre. Le monde des morts lui-même apparaît comme un halo mystérieux et irréel qui environne la sphère de la vie cosmique. Mais c'est celle-ci qui est souverainement réelle. L'attente d'une autre vie meilleure que la vie présente ne relève que de quelques courants de piété individuelle dans le paganisme. C'est le christianisme qui lui confère une valeur éminente. Cette relation de Dieu et du cosmos s'exprime à la fois dans ce mythe qu'il explique et dans le rite qu'il opère. Le mythe est la forme normale, au niveau de la religion cosmique, de l'expression de la relation de Dieu et du monde. Il consiste dans l'affirmation de l'existence, dans un monde d'archétypes, des exemplaires de toutes les réalités humaines. Ces archétypes sont les modèles immuables dont toutes les réalités participent. Ils existent dans ce que Van der Leeuwen a nommé le temps primordial ou temps mythique, qui est soustrait à la variabilité du temps concret. Les dieux et les héros y accomplissent les gestes éternels que reproduisent les hommes, et les gestes des hommes n'ont de réalité qu'autant qu'ils sont la reproduction fidèle de ces exemplaires préexistants. Ces mythes constituent la théologie des religions cosmiques. La plupart sont des mythes cosmogoniques qui ont pour objet la génération du monde. Ainsi chez les Australiens, celui de l'œuf cosmique qui contient toute la création. Ainsi dans les religions babyloniennes, celui de Marduk et de Tiamat, le dieu solaire et le dragon de l'abîme, dont le combat cosmique exprime le triomphe de la lumière et de l'ordre sur le chaos, le tohu-bohu primitif. Ainsi dans la Grèce antique, le mythe de Cronos, tué par son fils Saturne et dont la semence donne naissance à l'humanité. Il ne s'agit pas là d'explications causales à la manière dont les philosophes de la Grèce essaieront d'en donner, en appliquant aux réalités métaphysiques l'invention de la méthode scientifique. Il ne s'agit pas non plus de la révélation paradoxale de la création telle que la Bible la proclamera. Mais selon la démarche mythique, il s'agit d'une correspondance entre un monde préexistant, dont l'origine et la nature ne sont pas mises en question, et ce monde-ci. Mais les mythes ne portent pas seulement sur l'origine première des choses. Toutes les réalités essentielles de la vie, la culture de la terre et la chasse du gibier, le geste de la tisseuse et celui du forgeron, les premiers instants du nouveau-né et l'entrée dans l'adolescence, le mariage et l'enfantement, la mort et l'ensevelissement, toute la vie humaine en un mot, dans ses éléments permanents, est soustraite au monde profane. Elle possède dans le temps mythique les archétypes sacrés dont elle est la participation. Car dans ce monde mythique, les dieux et les héros ont accompli de toute éternité les gestes exemplaires du travail, de l'amour, de la guerre et de la mort. C'est pourquoi les mythes retracent ces merveilleuses histoires qui ressemblent à celles des hommes, mais ce sont celles des hommes qui n'en sont que la pâle empreinte. Le problème de la relation du mythe cosmique et de la révélation biblique pose de façon aiguë la question des relations du christianisme et du paganisme. Pour certains, les mystères chrétiens ne seraient pas d'une nature différente de celle des mythes cosmiques. Déjà Porphyre ou Cels rapprochait la maternité virginale de Marie et les naissances miraculeuses de la mythologie et la résurrection du Christ de celle d'Adonis. Le syncrétisme moderne a repris ces parallélismes. Simone Veil, dans sa lettre à un religieux, accumule les rapprochements entre la vigne de Dionysos et celle de Saint Jean, entre la croix du Christ et l'arbre cosmique. Pour échapper à cette assimilation par une violente réaction, Rudolf Bultmann veut démythologiser le christianisme en reconnaissant que les représentations par lesquelles il s'exprime sont en effet des mythes, qu'il s'agisse de l'incarnation, de la résurrection ou du jugement, et que la foi est un acte d'adhésion au salut donné par Jésus au-delà de toute représentation. En réalité, le problème se pose de façon analogue à celui du symbolisme. La révélation biblique et chrétienne ne doit rien au mythe. Elle porte sur des actions divines singulières, sans précédent, et non pas sur le fond permanent de l'existence humaine. La vénération de Marie n'est pas, comme le veut Jung, celle de l'élément féminin de la divinité, comme dans les Vierges Mères de l'hellénisme ou de l'hindouisme, mais elle repose exclusivement sur son rôle dans un moment unique de l'histoire du salut. La croix du Christ n'est pas le symbole cosmique de quatre dimensions, mais le gibet misérable où a été suspendu le sauveur du monde. La vigne n'est pas le symbole de l'immortalité dionysienne, mais celui du peuple d'Israël planté par Yahvé. La résurrection n'est pas l'expression du triomphe cyclique de la vie sur la mort au printemps de chaque année, mais l'événement unique qui, une fois pour toutes, introduit l'humanité dans la sphère de la vie trinitaire. On peut remarquer à ce propos que l'une des oppositions les plus caractéristiques de la religion cosmique et de la religion biblique, c'est que, dans la première, Dieu se manifeste à travers la régularité des cycles saisonniers, tandis que dans la seconde, il se révèle dans la singularité des événements historiques. La religion cosmique s'attache aux exemplaires permanents. L'historique, le singulier, est pour elle irréel. Seul ce qui se répète a de la valeur. Tout au contraire, la révélation biblique nous met en présence d'actions divines, nouvelles et décisives, qui modifient la condition humaine de façon définitive et qui ne sont pas susceptibles de se répéter. Le Christ est mort et ressuscité une fois pour toutes. Adonis, symbole de la vie biologique, meurt chaque automne et ressuscite chaque printemps. C'est avec le christianisme que le temps prend une valeur comme le lieu où se réalise un dessein divin. Ainsi, le caractère mythique que Bultmann croit déceler dans les mystères chrétiens est-il étranger à leur substance ? Mais il reste vrai que ces événements qui ne doivent rien au mythe dans leur origine ont été ensuite exprimés souvent dans des représentations empruntées au mythe. Car le christianisme ne détruit pas, mais assume la vérité de ceux-ci. Ainsi, les pères de l'Église se plairont-ils à dégager le symbolisme de la croix du Christ en montrant dans ces quatre dimensions l'expression du caractère universel de la rédemption. Ainsi, la résurrection du Christ, située liturgiquement dans le cadre de la fête saisonnière des premiers épis, apparaîtra-t-elle comme chargée de tous les symbolismes du printemps. Aussi, la descente du Christ aux enfers, qui signifie seulement à l'origine l'annonce de leur libération au sein de l'Ancien Testament, prendra-t-elle la forme d'un conflit cosmique entre les Christs et le prince de la mort ? Si le mythe explique la relation de Dieu et du cosmos, le rite a pour but de l'opérer. Les religions cosmiques comprennent un nombre infini de rites. Ceux-ci sont des actions symboliques qui sont considérées comme chargées d'une dynamis, d'une vertu cachée, comme ayant une efficacité mystérieuse. Ainsi, une libation d'eau imitera à la fois et provoquera la pluie, l'offrande d'une victime signifiera et opérera la dépendance à l'égard de la divinité. Les rites de printemps imiteront et opéreront une nouvelle création du monde. L'immersion dans l'eau symbolisera et opérera la purification des souillures contractées. Ces rites ont été interprétés de manière diverse. Les chrétiens y ont souvent vu des pratiques magiques destinées à s'assurer des complicités démoniaques. Et la magie existe, en effet. Mais elle est une dégradation de la religion cosmique. On les a interprétés aussi comme étant l'expression d'une correspondance entre les différentes parties du cosmos en vertu d'une sympathie universelle. Cette sympathie fonderait une causalité analogique, selon laquelle l'imitation rituelle déterminerait quasi mécaniquement l'effet réel. Mais cette interprétation métaphysique ne paraît pas rendre compte de la signification proprement religieuse du rite dans la religion cosmique. Celui-ci suppose l'intervention d'une puissance divine. Mircea Eliade semble indiquer la vraie voie quand il met le rite en relation avec le mythe. Le rite est une imitation non des réalités du cosmos physique, mais des gestes archétypes accomplis dans le temps primordial et qui sont des actions divines. Il est l'actuation de ces actions divines. Par n'importe quel rituel et par conséquent par n'importe quel geste significatif, le primitif s'insère dans le temps mythique, car l'époque mythique ne doit pas être pensé simplement comme un temps passé, mais comme présent et aussi futur, comme un état aussi bien qu'une période. Cette période est créatrice en ce sens que c'est alors qu'ont eu lieu la création et l'organisation du cosmos, de même que la révélation de toutes les activités archétypes. Un rite est la répétition du temps originel. Ici encore, on ne peut qu'être frappé de la ressemblance des rites cosmiques et des rites bibliques. Dans l'un et l'autre domaine, on voit l'immersion marquer la purification, le repas la communion avec la divinité, le sacrifice la reconnaissance de la souveraineté divine. Non seulement les gestes, mais les lieux et les temps cultuels sont les mêmes dans toutes les religions. Pâques est d'abord la fête cosmique du printemps, avant d'être la fête juive de la sortie d'Égypte et la fête chrétienne de la résurrection. Jérusalem était un haut lieu cananéen avant d'être la demeure de Yahvé, et le lieu du sacrifice du Christ. Et il est remarquable que la Bible souligne cette continuité, loin d'essayer de la masquer. Mais si les gestes sont les mêmes, marquant par là l'unité de l'histoire du salut, ils sont chargés d'un sens et d'une vertu nouveaux. Les rites cosmiques sont essentiellement relatifs à la vie de la nature. Ils ont pour objet d'assurer la conservation du cosmos, la régularité des pluies et des moissons, la fécondité des familles et des troupeaux. L'eau répandue est sacrement, symbole efficace de la plus féconde, le rite d'initiation introduite à la communauté tribale. La fête du printemps a pour objet d'assurer la recréation du monde au début de l'année. Le sacrifice attire la protection de Dieu sur les récoltes et détourne les puissances mauvaises. Le rite cosmique est fondé sur l'idée que l'ordre du cosmos est suspendu à la puissance divine. Et c'est bien le sens que lui donne la Bible. Quand elle nous montre que l'alliance cosmique est la promesse faite par Dieu de donner les pluies et les saisons fécondes. Le rite a pour objet de rappeler à Dieu sa promesse. Au contraire, le sacrement chrétien, et déjà le rite juif, sont en relation avec les actions historiques de Dieu. Ces interventions sont uniques et universelles. L'événement de la sortie d'Égypte comme celui de la résurrection n'ont lieu qu'une seule fois. Mais le rite, à la fois le commémore et l'actualise de façon à en appliquer l'efficacité à tous les temps et à tous les lieux. Par ailleurs, le rite chrétien n'a pas de relation avec le domaine cosmique. Il n'a pas pour objet d'obtenir les biens naturels, mais les biens spirituels. Il est une anticipation et une prophétie des réalités eschatologiques auxquelles il assure déjà une participation. Il introduit dans un autre monde au lieu d'assurer la conservation de ce monde. Mais en conservant les formes de la liturgie cosmique, il manifeste que c'est bien un même Dieu qui a donné d'abord la vie naturelle et qui donne ensuite la vie spirituelle. Le symbolisme cosmique, les mythes et les rites nous a mis en présence des structures collectives des religions non bibliques. Mais à côté de ces formes de la vie religieuse communautaire, il y a le domaine de l'expérience religieuse individuelle, la relation personnelle de l'âme avec Dieu. Ceci constitue un domaine en marge de la religion cosmique, parfois en conflit avec elle. Il ne s'agit plus d'assurer la protection de la divinité pour la conservation de la nature et de la race, mais d'entrer en contact personnel avec elle au-delà de la nature et de la race. Sur le plan qui est accessible à l'enquête historique, ces aspirations se manifestent dans des écoles de nabis ou de bhikshus, où sont enseignées les pratiques de l'ascèse et de la mystique, et que nous rencontrons dans le bouddhisme japonais, dans l'orphisme grec, dans le chamanisme sémitique. La forme la plus générale de cette relation personnelle avec la divinité est le bhakti, l'eusébeia des Grecs, la pietas des Latins. Elle apparaît là où la divinité n'est plus seulement conçue comme une puissance dont on attend des biens et dont on redoute la colère, mais où elle devient objet d'amour. La littérature religieuse des païens contient d'admirables expressions de cette dévotion à l'égard de la divinité. La forme d'expression de la piété est la prière. Celle-ci constitue une des structures fondamentales de la religion. Elle prend des formes diverses, louanges, actions de grâce, supplications. Elle constitue l'acte essentiel de la religion personnelle, dans la mesure où elle implique la reconnaissance d'une divinité avec laquelle l'âme peut entrer en communication, et dont elle reconnaît la valeur éminente. La piété est évidemment commune aux religions païennes et bibliques. Mais ici encore, il importe de bien poser le problème. L'existence d'aptitudes religieuses est un fait universel humain. Il y a de grands génies religieux en dehors du christianisme. Mais aussi bien, nous l'avons dit, ce n'est pas le sentiment religieux qui importe, car en lui-même il ne sauve pas. Ce qui est propre à la Bible, c'est la révélation de l'événement du salut. Et dès lors, l'acte essentiel de la religion devient la foi. Est-ce à dire pour autant que le sentiment religieux soit dans le christianisme une contamination païenne, comme de nombreux protestants le pensent? Ici encore, il nous faut revenir à la loi générale des relations entre la révélation chrétienne et la religion cosmique. En révélant l'événement nouveau de la foi, la révélation biblique ne détruit pas les richesses de l'âme religieuse, mais elle les assume. Au lieu que la prière païenne s'égare souvent dans la recherche de son objet et l'incarne dans un Dieu illusoire, la piété chrétienne s'adresse au Père de Jésus-Christ, au Dieu un et trine. Mais c'est toute la richesse des aptitudes religieuses qui, orientées vers leur véritable objet, trouvent alors leur épanouissement. Mais l'objet suprême de la religion individuelle n'est pas piété, mais union à la divinité. C'est le domaine de ce qu'on nomme mysticisme ou spiritualité. L'âme aspire à se fondre en Dieu au-delà du monde et d'elle-même. Ceci introduit à une autre forme de la religion personnelle, le dharma, l'ascèse des Grecs. Il s'agit avant tout ici non de prière, mais d'une pratique méthodique, d'une technique d'intériorité. Cette technique présente des formes diverses, mais qu'il s'agisse du bouddhisme chinois ou japonais, du yoga indien, de la ascèse néoplatonicienne, elle offre des traits communs. Elle consiste en exercices d'attention qui recueillent l'âme au-delà de l'agitation des images et des désirs, qui la restituent à elle-même et la rendent capable de se dépasser dans l'extase pour se fondre en Dieu. Ici, c'est le problème de la mystique païenne et de la mystique chrétienne qui est posé. Et il est incontestable que les méthodes de purification, les expériences d'union décrites par un Plotin ou par un Jean de la Croix, présentent des analogies frappantes. Mais la différence n'en est pas moins radicale. L'expérience intérieure dans les religions cosmiques est obtenue, nous l'avons dit, par des techniques appropriées. Les mystiques chrétiens usent aussi de ces techniques. Mais il reste que pour eux, l'expérience mystique en est radicalement indépendante. Elle est déterminée par une action de Dieu dans l'âme, qui n'est conditionnée par rien. À cet égard, l'expression même de spiritualité est ambiguë. Pour les spiritualités orientales, elle désigne la prise de conscience par l'homme, par voie de décantation, du principe spirituel, c'est-à-dire immatériel, qui est en lui. Mais pour le spirituel chrétien, la spiritualité est ce qu'opère dans l'âme l'Esprit-Saint par une action toute divine. Ainsi, le mysticisme n'apparaît-il pas comme différent des autres formes de la religion cosmique? Il en est seulement l'intériorisation. Au lieu que Dieu soit connu à travers ses symboles visibles, il l'est à travers son image invisible qu'est l'âme humaine. En ce sens, il y a une mystique naturelle, authentique. Le mysticisme apparaît ainsi comme une nouvelle voie de la religion cosmique pour connaître Dieu. Après le symbole cosmique, après le témoignage de la conscience, c'est l'activité de l'esprit. Cette activité est une certaine image de Dieu qui nous en fait connaître quelque chose de plus que ses vestiges dans la nature. Mais de même que la religion cosmique cherchait Dieu à tâtons à travers ses hiérophanies et se dégradait en idolâtrie, en voyant dans le soleil ou dans l'arbre un Dieu, le danger du mysticisme est de diviniser l'esprit de l'homme lui-même, d'identifier le noéton et le théion, comme le font Plotin et Bouddha, et de n'abandonner ainsi les idoles matérielles plus grossières que pour l'idole plus subtile qu'est l'esprit même de l'homme. La mystique chrétienne ne rejettera pas, d'autre part, ce qui est authentique dans cette mystique naturelle, pas plus que les autres formes de la religion cosmique, mais elle lui donnera un contenu nouveau. Pour elle, en effet, ce n'est plus seulement l'activité naturelle de l'esprit qui est le miroir où se reflète le Dieu créateur, mais c'est à travers ces opérations surnaturelles suscitées par la Trinité, qui y demeure, qu'elle perçoit mystérieusement la présence de celle-ci. Ainsi, saint Grégoire de Nice et saint Augustin ont repris les expressions de Plotin sur la connaissance de Dieu dans le miroir de l'âme pure, mais ils leur ont donné un sens radicalement nouveau.